Eh bien, bonjour à chacune, à chacun, que le nom du Seigneur soit béni. Je propose une première lecture, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Marc. Marc, chapitre 6. La portion qui va du verset 14 au verset 26. Marc, chapitre 6, versets 14 à 26. Ce qui précède la lecture que je vais faire ce matin, c'est tout simplement, le Seigneur est en train d'exercer un ministère où la puissance de Dieu se déploie, il y a des guérisons, il y a des miracles, et il nous est dit que le roi Hérode l'a pris. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre, et l'on disait « Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie », et d'autres disaient encore « C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. En effet, Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir, mais ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait, et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui demander « Je veux que tu me donnes tout de suite, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Quel drame évoqué en ces quelques mots, n'est-ce pas ? Drame terrible, pour Jean assurément, mais contrairement aux apparences, il n'est pas celui qui est le plus à craindre. Drame cependant, mais drame pour Hérode essentiellement. Drame d'occasion manquée, de rendez-vous qui n'ont pas été saisis et qui se termine par la tragédie évoquée dans ce texte. Mon but ce matin est d'attirer votre attention, notre attention, sur l'immense danger qu'il y a à opposer une résistance obstinée à la voix du Saint-Esprit lorsque celle-ci retentit dans un cœur. Et j'ai donné pour titre à la prédication de ce matin « Les rendez-vous manqués d'Hérode Antipas, un solennel avertissement ». Les rendez-vous manqués d'Hérode Antipas, un solennel avertissement. Lorsque l'Esprit de Dieu parle, lorsque vous entendez une prédication, ou ce qu'on a entendu ce matin par une parole de révélation, par un chant, par une lecture, par une situation, celui qui ressent cet appel de Dieu, un appel à la repentance, un appel à la mise en règle de notre vie, un appel à capituler devant Dieu, eh bien, si à ce moment-là, je réponds à l'appel de Dieu, tout peut se jouer pour moi. C'est un moment extrêmement solennel. Il y a des moments où tout peut se jouer pour toi. Ta destinée terrestre et éternelle peut se jouer en un instant. Prêcher l'évangile est une chose étonnamment grave. Parce que il en va de notre éternité. La résistance que l'on oppose à la voix du Saint-Esprit lorsqu'il nous donne l'opportunité de répondre peut nous entraîner dans un processus, dans un engrenage. Surtout le fait de remettre à plus tard, une autre fois, pas maintenant, lorsque j'en trouverai le temps, lorsque ce sera le temps de Dieu pour moi. Mais lorsque Dieu nous appelle à la repentance, le temps de Dieu c'est maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire quoi, endurcir son cœur? C'est, j'entends la voix du Saint-Esprit et je ne réponds pas. Je résiste à ses interpellations. Toutes les fois que je fais ainsi, mon cœur s'endurcit, devient de plus en plus dur et de plus en plus insensible. Et cela peut, comme je le disais tout à l'heure, nous entraîner dans un engrenage qui aboutit ou qui peut aboutir à des situations semblables à celles que je viens d'évoquer dans le texte, c'est-à-dire où l'âme impénitente, c'est-à-dire celui qui se refuse de se repentir, finit par être submergé et entièrement dominé par le péché. Mais qui était Hérode Antipas ou Hérode Antipater? Je vais les situer rapidement parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tendance à les confondre parfois. Dans le Nouveau Testament, il y a quatre rois qui, tous les quatre, ont porté le nom d'Hérode. Il y a d'abord le fondateur de la dynastie hérodienne, l'ancêtre, c'est Hérode le Grand. Hérode le Grand parce qu'il s'est illustré par le gigantisme de ses travaux, c'était un grand bâtisseur, et notamment il va contribuer à l'embellissement et à l'agrandissement du temple de Jérusalem, appelé également le temple d'Hérode. Cet Hérode-là, en question, a régné sur l'ensemble du pays de la Palestine, l'ensemble du pays d'Israël. Le second Hérode qui apparaît dans les Écritures, c'est Hérode Antipas, qui est le fils d'Hérode le Grand. Un troisième Hérode apparaît dans le livre des Actes, chapitre 12, versets 1 à 3, Hérode Agrippa Ier. Cet Hérode-là, c'est celui qui est le neveu d'Hérode Antipas, et donc le petit-fils d'Hérode le Grand, et qui va mettre à mort l'apôtre Jacques, et qui va faire emprisonner Pierre. Et puis ensuite, on retrouve un quatrième Hérode, c'est Hérode Agrippa II, qui est le fils du précédent, en acte 26, à Césarée de Philippe, lorsque l'apôtre Paul va comparaître devant lui. Je vais m'arrêter un petit peu sur la personnalité de d'Hérode, parce que c'est très, très intéressant de voir à quel type de personnage on a affaire. Les écrits de Flavius Joseph, qui est un écrivain, un historien romano-juif du 1er siècle, qui descend d'une famille sacerdotale, nous donne dans un ouvrage extrêmement précieux, qu'on peut encore avoir aujourd'hui, « La guerre des Juifs contre les Romains », nous donne des détails intéressants sur ce personnage. Il s'est arrêté sur ce personnage et il nous dit que, dès sa tendre enfance, dès son jeune âge, Hérode Antipas était marqué par la rouerie, la ruse. Et, en réalité, ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment un personnage retors, rusé, malveillant. Il était rempli de jalousie à l'égard de son frère Hérode Archélaüs, qui a succédé à Hérode le Grand, et il va intriguer auprès des Romains pour le faire destituer. Cette destitution arrivera 9 ans plus tard. Il va épouser une des filles du roi Arétas, le roi des Nabatéens, et lors d'un séjour à Rome, pour rendre visite à l'empereur, il va s'éprendre d'Hérodiade, qui est la femme de Philippe, qui vit à Rome. Et donc, cela entraîne la répudiation de son épouse légitime, il épouse Hérodiade, et la conséquence sera une guerre sanglante entre Arétas et Hérode. Et lors du partage du pays d'Israël en quatre, il y aura en réalité trois rois plus un gouverneur, puisque la Judée sera sous la juridiction directe de Rome par le biais d'un procurateur. Et donc, suite à ces intrigues, Hérode va être le roi de la Galilée et de la Pérée. Ce sera un royaume mineur, un royaume vassal à l'intérieur de ce gigantesque empire romain. Et dans son royaume, après 400 ans de silence, dans son royaume, sur les rives du Jourdain, une voix prophétique se met à retentir. Jean-Baptiste surgit du désert. Et le message qu'il prêchait était un message de repentance. Des foules entières, nous dit les évangiles, dans l'évangile de Matthieu chapitre 3, il nous est dit que des foules entières convergeaient vers Jean pour l'écouter. Tous les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays environnants se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais chose étonnante, chose surprenante, c'est que chez ce roi intrigant et corrompu, la prédication de Jean, le message de Jean, la vie de Jean, la consécration de Jean avait eu un impact. Tant il est vrai que les âmes totalement noires sont rares. Il arrive parfois que, même chez les plus bas tombés, chez les personnes les plus endurcies, lorsqu'ils sont mis en présence d'un homme de Dieu consacré, lorsqu'ils sont mis en présence de la parole de Dieu, lorsqu'ils sont mis en contact avec les choses saintes, il y a quelque chose qui vibre au plus profond d'eux-mêmes. Ils sont remués au plus profond d'eux-mêmes. Et une lutte s'engage où tout peut se jouer, comme je le disais ce matin. Tout peut se jouer à ce moment-là. Tout peut se jouer. Leur destinée terrestre et surtout leur destinée éternelle. Mais bien souvent, on constate, hélas, que beaucoup de personnes temporisent et remettent à plus tard. Ils se disent peut-être une autre fois, un autre moment. Il y a des moments où le Seigneur dispose tout pour toi. Ton cœur est bien disposé. Il fait tout pour que tu puisses être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Mais certains s'imaginent qu'ils auront toujours le temps. Toujours le temps. Pendant des années, j'ai entendu la prédication de l'Évangile. Et je m'étais dit, plus tard. J'avais les yeux fixés sur mes 18 ans, c'est la majorité. Et je me disais, j'en avais assez d'être dans cette famille chrétienne avec un père pasteur, avec sa morale, etc. Et je me disais, à 18 ans, les yeux fixés sur mes 18 ans, je prends la tangente et je vivrai ma vie. Mais je sais que Dieu existe. Faut avoir un sérieux problème pour nier l'existence de Dieu. C'est Aristote, le grand philosophe, qui dit qu'il est difficile de garder son sang-froid devant quelqu'un qui nie la divinité. Je savais que l'éternité était une réalité, qu'il y avait une vie après la mort, mais je me disais plus tard, je vais d'abord bien m'amuser. Et quand je serai vieux, là, je me déciderai. C'est simple, hein? Il suffit de dire, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Amen. Et j'aurais gagné sur les deux tableaux. Mais un jour, j'étais sur mon lit superposé. On est 10 enfants, donc on avait des lits superposés. Et je lisais un petit livre, ma destinée. J'étais déjà travaillé et remué dans mon cœur toutes les fois que j'entendais la parole de Dieu. Et là, j'ai su, où Dieu dit, c'est maintenant pour toi le temps favorable. C'est aujourd'hui pour toi le jour du salut. Et je ne peux pas vous l'expliquer, mais j'ai réalisé que si je ne me donnais pas à Dieu à ce moment-là, je risquais d'entrer dans un engrenage. Je risquais de m'endurcir pour de nombreuses années, et peut-être pour toujours, je ne sais pas. Ou peut-être que je n'aurais plus vraiment l'occasion, vraiment, d'avoir un cœur sensible. Et là, saisi de crainte, car je réalisais la gravité de cela, je suis descendu de mon lit superposé, je me suis mis à genoux. Et là, je dis, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Dans la crainte. je te reçois dans ma vie. Cher Saint-Esprit, merci de me parler encore. J'ai tant résisté à ta voix pendant toutes ces années, mais aujourd'hui je capitule. Et à ce moment-là, quand j'ai dit « Amen », un lourd fardeau a roulé de mes épaules. Une paix indicible a envahi mon cœur, et j'ai su que des chaînes avaient été tranchées et que ma vie ne serait plus jamais la même. Et parfois, je me dis « Mais quand serait-il, que serais-je devenu ?» Je préfère ne pas le savoir. J'ai une idée, mais c'est peut-être plus dramatique encore que ce que je le pense. Alors, je suis pas du genre à faire la pression sur les gens, du tout, ou à jouer sur les émotions, de faire du chantage. Mais si, à l'audition de cette prédication, ton cœur est étreint, réponds à la voix du Saint-Esprit. Donc, Hérode avait eu un impact. C'est incroyable, dans la vie, dans le cœur de cet homme. Il est dit au verset 20 que Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, mais il écoutait avec plaisir. Et pourtant, ce que Jean lui disait, c'était pas si facile à entendre. Ce prophète de Dieu n'avait pas des choses agréables à dire. C'était un appel à la repentance. Le message de Jean, il sonnait les hommes et les femmes, de quelque condition qu'ils soient, à se repentir, en produisant des fruits dignes de la repentance. Il annonçait que le Messie viendrait, et qu'il libérerait les captifs, mais qu'il serait le juge à la fin des temps, et que chacun recevrait selon ses œuvres. Et en plus, ce que Jean disait n'était pas facile. Il disait à Hérode, « Hérode, écoute bien, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Tu es remarié, mais tu es dans l'adultère, parce que tu as abandonné ton épouse. Il ne t'est pas permis, la parole de Dieu est claire, tu ne commettras pas d'adultère. Hérode, écoute bien, disait Jean, si tu veux être en paix avec Dieu, tu dois renoncer au péché. Hérode écoutait avec plaisir. Il était touché au fond de lui-même, mais il considérait que le prix à payer pour renoncer à ses péchés était tellement élevé. C'était tellement élevé. C'est pas possible, je peux pas vivre sans ça. C'est pas possible. Et il avait une attitude pour le moins paradoxale. Il va franchir un premier palier dans l'endurcissement. C'est que sous l'influence de Hérodiade, sous l'influence de cette femme, je vais utiliser une expression religieuse, animée par l'esprit de l'adversaire, eh bien, il va faire emprisonner Jean. C'est déjà un premier palier dans l'endurcissement. Je l'imagine, à la faveur d'une insomnie, il dit à un garde, va chercher Jean. Allez Jean, parle-moi encore. Il écoutait avec plaisir les prédications de Jean, il écoutait avec plaisir. Et puis il le remettait en prison. Attitude paradoxale pour le moins, mais qui révèle son cœur partagé. Il écoute avec plaisir, mais il ne bouge pas pour autant. Il ne capitule pas pour autant. Et ainsi, il y a parfois des chrétiens qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu avec plaisir. Et plus la prédication est sévère, plus ils apprécient eux. Je me souviens d'un ami, j'ai presque honte aujourd'hui. Je dis, viens, on va aller voir tel prédicateur. Il parle comme sa bouche est faite, il a un langage, il y va, il rentre dedans. Viens, on allait au cinéma en fait. Viens, on y va dans le fond. Et on allait. Et le prédicateur y allait. Et puis, il me regardait comme ça, il me disait, on s'en prend plein la figure, hein. Il utilisait un autre langage, hein. On s'en prend plein la figure. Je dis, ouais. Moi, j'étais déjà bien rétrograde à ce moment-là. Je dis, ouais. Ça déménage, hein. Mais il bougeait pas pour autant. Est-ce que tu es ainsi? Tu viens écouter la parole de Dieu? Vous avez un pasteur très éloquent, agréable à entendre? Vous entendez la parole, c'est chouette. Mais est-ce que tu réponds quand le Saint-Esprit te parle? Ou est-ce que tu fermes ton cœur, ne réalisant pas que ton cœur est en train de s'endurcir et que tu es en train de t'endurcir de plus en plus, que tu franchis palier après palier, et le remettant en prison? Et puis, on ne va pas relire les textes, mais on sait cela. À un moment donné, Hérode n'a pas pu se décider. Il est partagé, lié dans ses passions, lié dans son impureté. Mais un jour favorable arriva. il y a toujours un temps favorable pour l'ennemi. L'ennemi te guette et veut te détruire. Il y a toujours un temps favorable. Et là, l'anniversaire d'Hérode, et il invite tous les grands de son royaume, et on boit, et c'est la fête, comme ces païens savaient le faire. Et à un moment donné, Hérodiade, c'est le moment maintenant de... Parce qu'elle voulait la tête de Jean, mais au sens le plus littéral du terme. Salomé, je ne sais pas si elle s'appelle Salomé, je confonds mes films avec la parole de Dieu, mais enfin la jeune fille d'Hérode danse. Le diable connaît, et Hérodiade connaît les faiblesses de son mari. Hérodiade, la fille d'Hérode, vient et se met à danser. Je n'y étais pas, mais c'était pas le lac des Cygnes. Hein. La danse en question est une danse orientale extrêmement impudique et suggestive. Hérode est échauffé par le vin, submergé qu'il est par la convoitise, il dit n'importe quoi. Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. Et il ne se rend pas compte des paroles insensées qui viennent de sortir de sa bouche. Il ne réalise pas que cet engrenage dans lequel il est entraîné va se refermer sur lui comme un piège diabolique. Et là, il n'a pas su se décider. La jeune fille sort. Que demanderai-je ? La tête de Jean-Baptiste. Je veux maintenant que tu me donnes sur un plat la tête de Jean. Hérode est bouleversé. Chouraki traduit, Hérode fut profondément blessé. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Mais les regards de tous ces grands pèsent sur lui. La Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Il aurait pu quand même s'en sortir. Ah non, mais je te parlais pas des êtres humains, je te parlais de l'aspect matériel. Et renvoyer cette gamine. Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Que va-t-on penser de moi ? Qu'Hérode ne tient pas sa parole ? Et il ordonne l'impensable, inouï. Il ordonne à un garde d'aller décapiter Jean. On ramène ça sur un plat. Ça jette un froid. Les gens sont choqués. Mais bon, on reboit un coup, la musique repart et oublions tout cela. Hérode vient de franchir un palier dans l'endurcissement. Mais tout est encore possible pour lui. Tout est encore possible. Je voudrais pas être trop long dans ma prédication, mais je dois dire certaines choses quand même. Beaucoup s'imaginent qu'ils pourront toujours s'en sortir. Notre frère, notre pasteur disait qu'il y a des modes de vie qui conduisent à la mort. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils pourront toujours s'en sortir. Ils comptent sur leur volonté, leur détermination, leur éducation. Mais le péché recèle une puissance insoupçonnée quant à ses attraits qui peuvent devenir irrésistibles. On ne joue pas avec le péché. C'est pas un passe-temps favori. C'est une puissance d'iniquité, de destruction extraordinaire. Et quand Dieu parle, Dieu voit venir des choses dans ta vie. Il te dit attention. Tu te rends pas compte. Tu joues avec le péché. Ton cœur est en train de s'endurcir. Et le péché est en train de prendre de plus en plus d'emprise sur ta vie. Et si tu continues, il peut te conduire là où tu ne croirais même pas. Ce que tu crois ne jamais connaître, tu risques un jour, à ta grande consternation, tu risques de le commettre. Dieu disait à Caïn, Caïn, je vais te dire quelque chose, Caïn. Le péché est... L'image qu'il prend, c'est une bête fauve qui est tapie dans les grandes herbes. Et tapie, prêt à bondir. Le regard luisant, les muscles tendus. Caïn, attention. Il y a quelqu'un qui veut te détruire. Le péché va te détruire. Je t'avertis, Caïn. Tu es dans des mauvais sentiments. Tu es pris par la jalousie. Tu as des pensées de meurtre. Arrête. Repens-toi. Renonce à cela. Et Caïn n'a pas écouté. Et le Seigneur lui dit, Caïn, le péché veut te dominer. Mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire, tu peux dominer sur lui. Mais dans le texte hébraïque, c'est intéressant parce qu'il y a la notion de temps. Le Seigneur lui dit, Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur. Tu peux dominer, tu peux encore dominer sur lui. Tu peux dominer sur lui pour un temps encore. Il y a la notion de temps. Mais il arrivera un moment donné où la puissance d'iniquité risque de t'entraîner à commettre des choses que tu ne croirais pas si on te racontait. Un jour, je me retrouvais dans une réunion de prière et une parole prophétique a été donnée à un jeune homme. C'était très clair. Il fallait qu'il rompe avec une passion, avec un péché. Je m'en souviendrai toujours. C'était, Dieu avait parlé à plusieurs reprises, car Dieu est bon et Dieu réitère ses appels, mais pas indéfiniment. Et Dieu a parlé de manière très précise. Il n'a pas écouté. Peu de temps après, il quittait l'église. Et aujourd'hui, mes amis, il est complètement dominé par le péché. Mais alors, à un degré pas possible, si on lui avait dit cela, il vous aurait pas cru. On m'a raconté un jour une histoire. C'est sur la rivière Niagara. Un bœuf est en train de dériver. Un aigle plonge, enfonce ses serres dans la chair et se met à manger. Et quand vous êtes sur la rivière Niagara, il y a des panneaux, attention, à autant de kilomètres, à autant de mètres, c'est les chutes du Niagara. Mais l'aigle, il mangeait, tranquillement, un œil sur les panneaux peut-être. Le froid s'est mis à tomber, il se mit à geler. Il regardait les panneaux et continuait à manger. Et à un moment donné, à la dernière minute, il s'est dit, ça y est maintenant, je décolle. Il se mit à battre des ailes. Hélas, ses serres avaient été emprisonnées dans la chair gelée et durcie de l'animal. Et il a eu beau crier, il a eu beau se débattre, il fut entraîné vers les chutes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on parle de ces choses. Pas trop envie de donner ce message. Ce matin, je dis à mon épouse, je sens une telle pression. Mais j'ai appris à obéir au Saint-Esprit parce que moi je ne sais pas qui est là, mais je sais que Dieu connaît la réalité des cœurs et qu'il y a des gens qui doivent se repentir et qu'il y a des gens qui doivent capituler, qu'il y a des gens qui doivent revenir à Dieu. Plus tard. Un jour, Paul se retrouve devant le gouverneur Félix en acte 24. Et Paul se met à prêcher, vous imaginez quel privilège, il a eu Paul en face de lui. Mais il est dit que comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi, je t'écouterai quand j'en trouverai l'occasion. Y a-t-il eu une autre fois pour lui? On ne sait pas. Et les philosophes d'Athènes, quand Paul prêche sur la résurrection, t'entendront là-dessus une autre fois. Y a-t-il eu une autre fois? Y aura-t-il une autre fois pour toi? Peut-être. Mais attention, ta vie ne t'appartient pas. Et on ne se moque pas de Dieu. Je me souviens d'un témoignage. C'est la fin de Voltaire. Grand philosophe, question de point de vue, qui méprisait Jésus et l'Église. Et il signait ses lettres E-I. Ça voulait dire, écrasons l'infâme. Et l'infâme, c'était Jésus-Christ et son Église. Et à un moment donné, alors qu'il est à Paris et qu'il est dans une représentation théâtrale, il y avait Diderot, d'Alembert qui était là, il est frappé par une thrombose. Il est emmené à l'hôpital, et il est sur son lit. Ce sont les derniers instants, il va tenir le coup quelques jours. Et là, Dieu de Jésus-Christ, que j'ai maudit, que j'ai rejeté. Donnez-moi un livre de prière, demanda-t-il à l'infirmière. L'infirmière lui donne un livre de prière et il essayait de se repentir. Et il criait vers Dieu et puis par moments, il se mettait à maudire Dieu. Et il est mort en maudissant Dieu. Et l'infirmière qui a assisté à cela, elle dit, plus jamais je n'assisterai à la mort d'un incroyant. Il avait fait un calcul. Je me repentirai quand je le déciderai. Mais la repentance est un Dieu que Dieu t'accorde. Et lorsque l'Esprit de Dieu cesse de parler, lorsque l'Esprit de Dieu cesse d'interpeller, lorsque le cœur s'endurcit, on n'est même plus à même d'entendre la voix du Saint-Esprit. On n'est même plus repris. C'est une des choses les plus graves. Il faut dire ces choses parce que c'est la réalité. Tu ne peux pas endurcir ton cœur à l'infini. Je t'exhorte à capituler devant Dieu lorsqu'il t'appelle. Mais revenons à Hérode. À un moment donné, Hérode va entendre parler de Jésus, encore une fois. En Luc chapitre 13, verset 31, on vient dire à Jésus, « Pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Jésus ne lui a jamais rien dit. Jésus ne lui a jamais rien fait. Il veut faire taire cette voix. Lui qui prenait plaisir à entendre la parole de Dieu n'est plus du tout disposé à écouter la parole de Dieu. Pourtant, Jésus, il était au cœur de la prédication de Jean, mais je ne supporte plus d'entendre la parole de Dieu. Et il veut le faire mourir. On retrouve ça dans les psaumes. C'est la haine du méchant à l'égard du juste. Jésus disait, ils m'ont haï sans cause, dit un psaume. Pourquoi? Pourquoi le méchant est irrité alors que, mais bien parce que le témoignage muet du juste, sans même qu'il ait besoin de parler, est une condamnation de son impiété. Et Hérode ne veut plus du tout. Un premier palier, il voulait entendre, premier tableau. Deuxièmement, il enferme Hérode, il enferme Jean, il gravit un échelon. Et là, je ne veux plus du tout entendre. Il s'endurcit de plus en plus. Il est en train de s'embourber de plus en plus. Il est question du bourbier fangeux dans les psaumes. Il est en train de s'enliser, parce que le péché a ses lois qui fait qu'on s'enlise de plus en plus. Maintenant, je termine ma prédication avec le quatrième et dernier tableau. Le dernier rendez-vous d'Hérode avec le Seigneur. Et la dernière possibilité qu'il a maintenant d'entendre la parole de Dieu. En Luc 23, versets 6 à 12. Au verset 8, il nous est dit que Jésus est arrêté. Je lis, on voit que Pilate est embarrassé par Jésus, c'est un condamné à mort embarrassant, et il va l'envoyer à Hérode, puisqu'il est sous la juridiction d'Hérode. Et il nous est dit que lorsque Hérode voit Jésus, il éprouve une grande joie dans son cœur, et il aurait voulu que Jésus fasse quelques miracles pour l'épater comme un thaumaturge. Mais Jésus ne se prête pas à cette mascarade-là. Il a l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Il a l'occasion de se repentir. Et il nous est dit, Hérode fut ravi de voir Jésus, car depuis longtemps, il désirait faire sa connaissance parce qu'il avait entendu parler de lui et l'espérait voir faire quelques signes et quelques miracles. Écoutez bien, il lui posa de nombreuses questions, mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Quand Dieu ne parle plus, c'est le début du jugement. Jésus ne parle plus. C'est le jugement de Dieu sur ce pécheur endurci. Il a franchi les feux rouges. Il a rejeté les appels de Dieu. Est-il possible qu'un tel homme... Et il va faire quelque chose qui est caractéristique. Tout ce qu'il peut faire, voyant que Jésus ne lui répond pas, plutôt que de se remettre en question, ne demande, parfois tu es repris par le Seigneur, ça t'arrive. Moi je me suis déjà pris des claques, mais quelque chose de pas possible. Des péchés, comme ça, paf, même publiquement. Et j'étais choqué, j'ai dit, Seigneur, ne m'aime pas. Pourquoi t'as révélé ça devant tout le monde? Bon, il n'y avait que quelques personnes. Mais quand même, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Moi, quand même. Et j'étais là, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Parce que tu m'as humilié. Et le Seigneur me disait, je t'aime trop que pour te laisser dans cette situation. Et parfois, on aura envie de dire, Seigneur, laisse-moi tranquille, ne dis jamais ça. Si l'Esprit de Dieu travaille ton cœur, ne lui dis pas, laisse-moi tranquille. C'est ce que Jean-Paul Sartre a fait. Il avait dans sa parenté, grand-oncle, je pense, des pasteurs. Et à un moment donné, il en avait assez. Assez de cette voix de Dieu qui l'interpellait. Et il dit, moi je me suis mis à un moment donné à sortir tous les blasphèmes que j'avais dans mon cœur. J'ai dit, mais laisse-moi tranquille. Et à un moment donné, quelque chose s'est brisé dans mon cœur. Et Dieu m'a laissé tranquille. Attention, si le Seigneur te reprend, c'est parce qu'il t'aime et c'est une bonne chose pour toi. C'est parce qu'il veut te sauver. Et ce qui se passe avec Hérode, c'est que tout ce qu'il peut faire, c'est revêtir Jésus d'une tunique et de le tourner en dérision. Il tombe dans la dérision. Vous rencontrerez parfois des gens comme ça. Ils ont aimé Dieu. Ils étaient sensibles à la voix de Dieu. Ils ont servi le Seigneur. Ils n'ont pas veillé sur leur cœur. Ils n'ont pas rompu avec le péché. Et aujourd'hui, quand vous leur parlez de Dieu, ils sont dans la dérision. Est-il possible qu'ils reviennent à Dieu? Parfois, un brisement sévère dans une vie. Il y a comme une reconversion. Mais je tiens quand même à dire, parce que c'est la vérité, et je dois dire la vérité, il y a des endurcissements dont on ne revient pas. Horreur de dire ça, mais il faut le dire. Parce qu'il faut avertir. Mais je voudrais, afin de, quand même, de ne plonger personne dans le désespoir, je voudrais juste dire ceci. Parce que je sais, j'ai été moi-même un rétrograde notoire. Je suis retourné à ma vie de péché. Il y a des frontières que le Seigneur n'a jamais permis que je franchisse, qui auraient pu avoir des conséquences, qui auraient pesé comme une hypothèque sur ma vie, mais Dieu préservait l'appel qu'il avait mis dans ma vie. Et à un moment donné, je croyais vraiment avoir franchi le Rubicon. Je pensais vraiment que l'Esprit de Dieu m'avait abandonné, m'avait laissé tomber. Je tiens à te dire que si cette réalité existe, c'est rare, mais ça existe. Si tu es dans une situation où tu t'es détourné de Dieu, c'est souvent une ruse de Satan. Cette possibilité existe, mais très souvent, beaucoup de personnes qui ont du mal à revenir à Dieu sont convaincues qu'ils ne peuvent plus être pardonnées. Alors je tiens à te dire quelque chose. Si dans ton cœur est étreint, si tu as envie de revenir à Dieu, même si tu as peur, si ton cœur est serré par la crainte, par rapport à cela, à cette réalité, c'est une preuve certaine que Dieu t'appelle encore. C'est une preuve certaine que Dieu ne t'a pas lâché, ne t'a pas abandonné. Certes, il est fidèle, certes, mais l'endurcissement du cœur est quelque chose de terrible. Alors, si aujourd'hui tu entends sa voix, c'est par rapport à la conversion peut-être, par rapport à, tout simplement, tu as besoin de capituler, de venir à Dieu, de l'accepter comme ton sauveur, ou tu as besoin de revenir à lui. Après t'être éloigné, n'attends pas des grandes émotions religieuses, on ne va pas sortir les violons. C'est pas tellement ça les vraies consécrations, c'est simplement par une décision de ta volonté. Tu dis je reviens à toi. Tu fais un pas vers le Seigneur. Tu fais un pas, il en fera 100. Et crois-moi, je m'étais dit, l'appel de Dieu sur ma vie est fini. Et j'avais des pensées suicidaires. Je me dis, si je mets un terme à ma vie, j'ai plus aucune chance, c'est l'éternité qui est là. Peut-être qu'il y a encore une chance. Et le diable me bombardait, c'est fini pour toi. Je tombais sur des versets bibliques, hors contexte. Suicide-toi, c'est fini, de toute façon c'est fini. J'étais tellement désespéré que j'ai commencé à boire le soir pour m'étourdir. Moi j'avais pas jamais eu de problème de ça, et pas d'alcool à la maison, mon père prédicateur pentecôtiste, etc. Mais je me suis dit à anesthésier ma souffrance en disant, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Seigneur, ramène-moi à toi, fais-moi revenir à toi et je reviendrai. J'étais complètement brisé. Le Seigneur s'était mis en travers de tous mes projets, tout capotait, terminé. Dieu me résistait. Et à un moment donné, brisé, je suis revenu à lui. Et la restauration s'est faite petit à petit. Petit à petit, c'est comme une maison en ruine qui est restaurée. Petit à petit, Dieu a commencé à restaurer. Et je peux témoigner aujourd'hui de la fidélité de Dieu, même à l'égard de ceux qui se sont éloignés, même à l'égard de ceux qui ont été le plus loin possible dans l'endurcissement. Dieu peut te ramener à lui, mais ne tarde pas. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen.